Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Noëlla Luzitu Kabambi.
Les recommandations formulées par les différentes couches de la population seront examinées dans la commission défense et sécurité et le rapport sera soumis au président de la République pour des solutions idoines. C'est en ces termes que la première ministre Judith Suminwa a clôturé devant la presse ce dimanche sa mission à Bunia, mission consacrée à l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Plainte de l'Association des exploitants forestiers et artisanaux de Kinshasa, elle dénonce le fait que ce sont les acheteurs de bois qui payent à la place des coupeurs de bois les taxes et autres frais d'exploitation qu'exigent les services compétents avant toute vente, alors que cela devrait revenir normalement, selon eux, aux propriétaires des radeaux qui s'adonnent à l'exploitation et vente illicite et qui travaillent aux différents ports privés de Kinkolé. Liliane Moussaou, chargée des questions liées au genre, au projet d'appui à la connectivité et au transport Pacte, est l'invitée de ce journal. Elle va parler des travaux de construction et de bitumage de la route nationale numéro 2 axe Mbujimayi Kabinda Mbanga. Bonjour à tous. La première ministre Judith Suminwa a clôturé ce dimanche sa mission à Bunia sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans sa déclaration à la presse, les recommandations formulées par les différentes couches de la population seront examinées par la commission défense et sécurité, dit-elle, et le rapport sera soumis au président de la République pour des solutions idoines. Un extrait de ses propos choisi par Isaac Rémo.
Le chef de l'État souhaite ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais il est important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la capotine de tout ce qui a pu ressortir de cette situation.
La levée immédiate de l'état de siège en Ituri est l'unique recommandation de presque toutes les forces vives et des députés provinciaux face aux problèmes d'insécurité qui persistent depuis environ 7 ans dans cette province. Pour les chefs coutumiers, le gouvernement doit plutôt renforcer l'effectif des militaires et accélérer le processus de désarmement et démobilisation en vue de consolider la paix en Ituri. C'est ce qui ressort des consultations samedi de la première ministre Judith Suminwa sur l'évaluation de cette mesure exceptionnelle. Isaac Rémo.
Pour les élus provinciaux et les acteurs de la société civile, le nombre des morts et des milices ainsi que les degrés de violence a augmenté pendant l'état des sièges qu'avant cette mesure. Même les déplacés installés au site ont été plusieurs fois victimes de l'attaque des miliciers des groupes armés, faisant des centaines de morts, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et par conséquent, il faut lever l'état des sièges. Pele Kaswara, rapporteur de l'Assemblée provinciale.
Comment on peut expliquer qu'il y ait plus de morts pendant l'état des sièges alors que l'état des sièges a été instauré pour éradiquer les miliciens. Plusieurs camps de déplacés se trouvaient en Ituri. À ce jour, aucun de ces cas n'est vidé. Par contre, les camps de déplacés ont fait l'objet des attaques meurtrières de la part de groupes armés. En plein état de siège, on a enterré des personnes vivantes ici à Ituri. Pour l'Assemblée provinciale, on doit lever l'état de siège.
De son côté, les coquistes des chefs coutumiers plaident pour le maintien de l'état de siège qui a permis de pacifier une grande partie de la province. Le gouvernement doit renforcer l'effectif des militaires en vue de préserver ses acquis. Leur porte-parole, Katalo Takumara.
Vous avez trouvé un climat sécuritaire tellement apaisé. Il faut qu'il y ait renforcement des militaires dans nos différents villages, la mise en œuvre effective donc du programme PDDRCS pour qu'on parle de la paix totale sur donc la province de l'Ituri.
Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'Union africaine, la SADC et les Nations unies s'engagent à soutenir la SAMI-RDC à se conformer aux droits de l'homme et droits international humanitaire dans cette zone des opérations. Les représentants de 3 organisations ont signé jeudi à Goma cet acte d'engagement à l'issue de 3 jours de consultations sur le cadre de conformité aux droits de l'homme de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI-RDC. Bernard Nyangi.
L'Union africaine, la SADC et les Nations unies à travers la MONUSCO et le Haut Commissariat aux droits de l'homme s'engagent notamment à travailler de manière concertée pour ce soutien à la SAMI-RDC. Elles ont notamment mis en place, à l'issue de ces travaux du 19 au 21 novembre dernier à Goma, un groupe de travail à cette fin. Cela avec l'objectif d'amener la SAMIRDC au respect des droits humains pendant ses opérations dans cette zone de guerre de rébellion. Ceci s'inscrit dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entre autres, le 27-17 de 2023 souligna que les opérations de la force de la SAMIRDC qui reçoivent le soutien de la MONUSCO devraient être menées dans le respect de la politique des Nations Unies en matière des droits de l'homme et de la protection des civils. Le groupe de travail qui est mis en place devrait finaliser incessamment la feuille de route pour la conception et la mise en œuvre du dit cadre de conformité, dit le communiqué final de cette rencontre rendue publique ce samedi 23 novembre. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Okapi.
Les agences des Nations Unies et tous les acteurs qui œuvrent dans la stabilisation conviennent de canaliser tous leurs efforts autour du plan opérationnel de la province du Sud Kivu. Résultat d'un forum de deux jours organisé à Bukavu du vendredi 22 au samedi 23 novembre sous les orientations du coordonnateur national du PDDRCS et son collaborateur, le coordonnateur principal DDR Stabilisation de la MONUSCO. On écoute les propos de Kapuku Boaboa William, numéro 1 du PDDRCS en RDC. À l'issue du forum de Bukavu. Il est au micro de Jean Kassami.
Nous sommes heureux. Les partenaires sont engagés à nous appuyer, à appuyer le PDDRCS pour que nous puissions concrétiser, rendre visible la vision du chef de l'État de consolider la paix à l'est du pays et sur toute l'étendue de la République. Notre grand partenaire, c'est le gouvernement. Et le gouvernement dispose déjà des moyens pour le PDDRCS et que nous appelons les partenaires aussi à nous venir en aide avec les moyens qu'ils peuvent. On ne peut pas exiger aux partenaires de nous donner un tel montant, mais nous les encourageons de venir vers nous, le PDDRCS, pour nous aider à aller de l'avant. Ils sont vraiment engagés à nous aider dans la stabilisation de notre pays. Et cette réunion a réuni quand même beaucoup d'acteurs qui œuvrent dans la stabilisation. Et je vois qu'avec leur engagement et ce qu'on a eu comme échange, je suis sûr qu'ils vont nous accompagner pour faire avancer le PDDRCS.
Notez que le plan opérationnel de la province du Sud Kivu nécessite une cagnotte de 70 millions de dollars américains. Au moins 17 miliciens Mobondo tués par l'armée au village Leme Akwamut et Maringa Batoko dans la province du Kwango. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à hier samedi lors des affrontements entre l'armée et la milice Mobondo. Le porte-parole de l'opération Ngemba, qui signifie paix, de la 11e région militaire du Grand Bandundu qu'il annonce, indique que 6 autres assaillants ont été capturés et plusieurs armes militaires, des munitions et des armes blanches ont aussi été récupérées. Le capitaine Anthony Mwalushai est au micro de Irène Mbomaluzolo.
Les opérations des traques de rebelles Mobondo dans l'ensemble de la 11e région militaire marchent à merveille. Sur l'axe Bakata-Kwamut, au village Lueme, nous sommes dans la province de Maïndombe, les rebelles Mobondo ont essayé d'attaquer vendredi dans la nuit les éléments du 2e bataillon de combat en jungle qui étaient en patrouille de combat. Réagissant à cette attaque, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser sur place 11 rebelles et récupérer 4 armes de guerre de type AK-47, 4 chargeurs garnis à côté de plusieurs machettes et autres armes blanches. Toujours le même vendredi. Cette fois-ci dans la localité de Baringa Matoko, nous sommes dans le territoire de Kenge, dans la province de Kwango. Les éléments du 11-022 bataillon d'infanterie se sont affrontés également avec le rebelle. Ils ont fait état de 6 rebelles neutralisés, 6 autres capturés, 6 armes de type calibre 12 récupérées, plusieurs cartouches et machettes également récupérées.
Ici à Kinshasa, aux différents ports privés de Kinkolé, la majorité de propriétaires des radeaux s'adonnent à l'exploitation et vente illicite de bois. Des centaines de grumes flottent au port et sont vendues sur le fleuve en dehors des normes de l'État. L'association des exploitants forestiers artisanaux dénonce cette magouille qui pèse énormément sur les acheteurs de bois, car ces derniers sont obligés de payer à la place des coupeurs de bois les documents d'exploitation et autres taxes qu'exigent les services compétents avant toute vente. Des détails dans ce reportage de Askin Zigbia Tayoro.
C'est au port des Africains Sakikoles que s'observe l'exploitation et vente illicite de bois. Plusieurs radeaux en provenance de la province de l'Équateur atteignent ce port sans document valable d'exploitation de bois. C'est ce que dénonce le président de l'association des exploitants forestiers artisanaux, Baruti Eliki.
Les exploitants artisanaux, ils n'achètent pas les documents. Ils ne vendent pas ces bois-là dans des parcs du port, mais ils vendent ça au moins dans l'eau. Ce sont les ventes illicites. En plus, les mamans qui achètent des bois, s'ils amènent les bois au queue du port, c'est difficile de les faire sortir. Maintenant, ces mamans-là, ils sont censés de payer ce que l'exploitant peut payer à l'État.
Bienvenue Bombolo, conseiller de l'association des exploitants forestiers artisanaux, explique ici la procédure normale que devait suivre le propriétaire des radeaux.
Normalement, les exploitants devraient amener les grumes jusqu'au port. Et la CCVI fait son contrôle, il paie les taxes prévues pour l'État et ensuite il procède à la vente de leurs grumes. Mais ils ne les font pas, ils font la vente illicite au niveau de l'eau.
Selon le témoignage recueilli, il y a une dizaine de taxes à payer avant de faire sortir de l'eau les grumes. C'est la raison avancée par les propriétaires de radeaux pour échapper au contrôle de l'État.
Les cadres et agents de l'Institut des musées nationaux du Congo, les experts du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine et ceux de l'UNESCO recommandent au gouvernement de mettre en place une politique de public dans les institutions muséales congolaises. Recommandation faite à l'issue des 4 jours des travaux sur la réflexion de la politique nationale des musées en RDC. Ces états généraux ont été clôturés le vendredi 22 novembre ici à Kinshasa. Ils encouragent également le gouvernement à développer une stratégie de professionnalisation du personnel des musées et de stabilisation des emplois, ainsi qu'élaborer une stratégie qui permette aux musées de jouer un rôle actif et interactif dans la société à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières nationales. Écoutez à ce sujet Simon Sialasiala, directeur général intérimaire de l'Institut des musées nationaux du Congo. Il est au micro de Jean-Marc Matwaki.
Les musées nationaux de la République démocratique du Congo ont un défi assez énorme. C'est le défi surtout sous le point de vue des infrastructures. Parce que quand nous parlons d'un musée, il se doit exister sur des infrastructures modernes qui reflètent les principes muséaux. Et quant à ce, en ce moment, nous sommes à la quête de ce type d'infrastructure. Et c'est ainsi que lors de nos états généraux, nous avons eu à ressortir les fameux défis pour y trouver des solutions que nous puissions améliorer ce secteur des infrastructures muséales. C'est toute une politique que nous sommes en train de mettre en place, okay, de pouvoir réapproprier aux Congolais son identité culturelle. Et il y a un plan stratégique qui ressort de ces assises, qui seront mises à la disposition de la nation congolaise, du secteur éducatif, pour pouvoir permettre à ce que tout ressortissant de cette nation puisse savoir que le musée est un endroit éducatif et pourrait prendre connaissance de ce qui est de son héritage culturel.
Terminons avec une note de sport. Les Léopards Basketball, messieurs, prennent part à l'Afro Basket qui se joue à Dakar au Sénégal. Déjà, ils ont gagné leur premier match face à la sélection du Mali. Cependant, leur morale est de plus en plus entamée car ils n'ont reçu aucune assistance du gouvernement malgré l'accompagnement du ministère de tutelle, rapporte le président de la Fédération de Basketball du Congo. Pour Paulin Kabongo, c'est la 1e fois que le basketball est négligé, nonobstant les médailles qu'il rapporte au pays. On écoute Paulin Kabongo, président de la FEBACO, joint par Jean Gandou.
Première sortie, première victoire. Nous sommes débrouillés pour prendre des billets à crédit, amener la sélection ici. Notre gouvernement devra tout simplement nous fixer, nous dire que, écoutez, les autres disciplines, vous n'existez pas. En ce moment-là, nous allons nous plier. Lorsque le jour demande la prime, je ne sais leur rien promettre, ça ne peut qu'entacher leur morale. Ces joueurs qui viennent de l'Europe ont des contrats dans leur club. Quand ils viennent comme ça, ils sont pas payés de l'autre côté. Ils s'attendent à obtenir une contrepartie, qu'elle soit minime, parce qu'elle est vraiment minime. Il en est de même de tous ceux qui viennent de Kinshasa, qui abandonnent leur boulot, leur famille. Lorsque vous constatez que rien n'avance, le moral du joueur commence à être atteint. Mais la peur est que nous retombions dans le cauchemar de précédentes missions. Nous restons endettés jusqu'à ce jour. Il y a eu une phase finale de Coupe d'Afrique de Nations avec les 3x3. Nous avons terminé vice-champion d'Afrique. Nous avons ramené les médailles. La mission n'a jamais été payée jusqu'à ce jour. Nos filles étaient à la phase finale de l'Afro-Basket à Kigali, l'année passée, au mois de juillet, ça n'a jamais été payé jusqu'à ce jour. J'ai comme l'impression qu'on voudrait tout simplement que le basket ne se joue plus.
Actualité internationale.
La nouvelle flambée de violence qui oppose sunnites et chiites depuis le jeudi 21 novembre dans le nord-ouest du Pakistan a déjà fait 82 morts et 156 blessés, déclaration ce dimanche d'un membre de l'administration locale à l'agence France Presse AFP, ajoutant que des tirs sont encore entendus par endroits. Jeudi, une dizaine d'assaillants avaient tiré à vue sur deux convois transportant des familles chiites sous escorte policière et vendredi et samedi, des chiites avaient mené des raids de représailles sur des quartiers sunnites. Unité avait rapporté habitants et autorités à l'agence France Presse.
L'invité.
Au Kassai Oriental, les travaux de construction et bitumage de la RN2 Axe Mbujimayi-Kabinda-Mbanga, long de 280 km, seront lancés incessamment. Une délégation du projet d'appui à la connectivité et au transport PACTE séjourne à Mbujimayi au Kassai Oriental. La délégation était également à Kabinda dans la province de Lomami. En quoi consistent ces travaux de bitumage de la RN2? Liliane Moussaou, chargée des questions liées au genre, au projet d'appui à la connectivité et au transport PACTE, et notre invitée. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, Madame Liliane Moussaou. Vous vous retrouvez en Mbujimayi. Quel est le but de votre mission?
Merci beaucoup, Madame. Effectivement, je suis à Mbujimayi, mais pas seulement à Mbujimayi, mais j'ai été aussi à Kabinda. Nous avons pour mission de faire le suivi et la supervision des activités qui sont mises en œuvre par notre partenaire ici au niveau local, qui s'appelle ABF-ND, c'est-à-dire ABF-ONG pour le bien-être familiale et naissance désirable qu'on a recruté pour les questions liées aux violences basées sur le genre.
En quoi consiste le projet d'appui à la connectivité et au transport?
En fait, c'est un projet d'abord de réaménagement et bitumage du tronçon Mbujimayi-Kabinda-Mbanga. C'est sur 280 km qui va être exécuté dans sa première phase. Et ce projet va se poursuivre dans sa deuxième phase, qui est celle de Mbanga jusqu'à Penemwanga. Penemwanga, on est déjà dans le Maniema. Et du Penemwanga, on va vers le sud Kivu. Donc, ça va relier la province du Kasai, Lomami, et Maniema et sud Kivu.
Qui finance ces travaux?
Ces travaux sont financés par le groupe IDA de la Banque mondiale.
Combien de temps ce projet va-t-il prendre?
Pour la première phase, Mbujimayi-Kabinda-Mbanga, c'est pour 38 mois. J'aimerais ajouter aussi l'autre dimension. Ici, nous sommes au Kassai. On a plus parlé de la dimension Mbujimayi-Kabinda-Mbanga. Mais ce projet est mis aussi en œuvre dans sa première phase du côté est. Là, c'est Kanyabayonga-Butembo. Là, c'est 130 km et de ce côté, c'est 280 km.
Là, il s'agit de tracer donc la route. Et s'il faut l'agrandir, par exemple, y a-t-il un projet par rapport à l'indemnisation des personnes qui sont le long de la route?
Oui, merci beaucoup. Il faut que la population puisse savoir ce genre d'informations. Et c'est très important. En fait, avant même que nous puissions arriver à l'étape où nous en sommes aujourd'hui, il y a d'abord des études qui ont eu lieu ici au niveau du Kassai oriental et de l'Omami. Il y a cette étude que nous appelons le PAR. C'est un plan d'action pour la réinstallation des personnes affectées par le projet. Donc ce plan-là avait été élaboré, d'abord validé par le bailleur, et puis après, publier. Quand on le publie, donc on prend maintenant une organisation pour faire la mise en œuvre de ce plan-là qui a été élaboré. Donc, le consultant était venu, il a commencé sa mise en œuvre. Donc, la mise en œuvre consiste à indemniser les personnes qui sont affectées par le projet. C'est le gouvernement de la République démocratique du Congo, en fait, qui indemnise. Mais pour ce projet, le gouvernement avait demandé à la Banque mondiale si elle pouvait prendre ça en charge. Et la banque avait accepté. Donc on est en train d'indemniser les personnes qui sont tout au long de la route et qui peuvent être affectées par l'emprise de la route.
Combien de personnes seront indemnisées?
216 personnes pour ce tronçon-là. On n'a pas encore fini d'identifier les personnes. Pour l'instant, c'est 216. Cela a déjà commencé. Les personnes ont déjà été indemnisées sur une distance de 10 km. Et c'est par là qu'on va lancer les travaux. Parce que ceux qui sont dans les premiers 15 km, il y a des maisons, ça demande un peu plus de procédures. Donc, on ne veut pas bloquer les travaux à cause des procédures qu'on va avoir avec les personnes qui ont des maisons. Et ce qu'il faut vraiment dire à la population, c'est de s'approprier de ce projet. De s'en approprier parce que c'est un besoin ultime pour la province. Et les bénéficiaires, c'est cette communauté. Elle doit savoir que pour son développement, il lui faut cette route. Donc, doit suivre les travaux tels que c'est en train de se réaliser, doit accompagner ceux qui sont sur la route en train de faire les travaux, s'il y a des besoins par rapport à ceci, mais pas venir bloquer les travaux. Ça, c'est pas intéressant parce qu'on a vu déjà ce genre d'attitude.
Quelle garantie donnez-vous à ces travaux, donc par rapport à la durée dans sa première phase?
Moi, je suis optimiste à voir la manière dont l'entreprise s'y prend, juste pour la base vie. Et je suis en tout cas optimiste. Et je crois qu'ils peuvent finaliser dans le délai, à moins qu'il y ait d'autres problèmes qui puissent les empêcher. Mais en tout cas, pour moi, je trouve que la première phase pourra être un succès.
Madame Liliane Moussaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est par là que prend fin ce journal, la grande édition de la mi-journée sur Radio Kapi. Un journal mis en onde par Alain Goy et présenté par Noëlla Luzito Kabambi dans une coordination de Jacques Yves Molima et la supervision de Alain Irung. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez à l'écoute des programmes de Radio Kapi, le média de la paix.